et sa fille Camille qui mouillent la chemise, si j'ose dire. Et avant de leur passer la parole, je reviens aux petits détails pratiques. Vous avez des crayons et de quoi écrire devant vous si vous voulez prendre des notes ou noter des questions, parce qu'il y aura un moment d'échange après. Et je pourrai relayer vos questions ou vous pourrez les poser vous-même. Et voilà, je passe la parole à nos très chers amis. Mais je crois que Pierre-Claude, c'est lui qui commence.
Merci. Vous avez besoin de ce micro ?
Oui.
Bonjour, bonjour à tous. En fait, j'ai demandé de prendre la parole. Pourquoi ? Pourquoi j'ai demandé ? C'est pas pour faire le speech de ce matin, c'est simplement parce que je pense que je suis relativement bien placé pour introduire trois exceptionnelles dames. Pourquoi je dis trois exceptionnelles ? Elles sont exceptionnelles à plein de titres, même si, comme je dis, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour l'en juger, mais ou alors je suis mieux. Toujours est-il qu'elles ont choisi ce matin de partager un bout de leur vie avec vous, avec nous. Et je dirais ce qui les caractérise toutes les trois, c'est qu'elles ont les trois décidé d'axer leur vie sur Dieu, d'avoir Dieu au centre de leur vie, et ça les a dirigées tout au long de leur existence et aujourd'hui encore. Alors tout d'abord, je commence par tout seigneur, tout honneur, Edda Penaud qui nous vient de Zurich, dont j'ai l'honneur, comme vous avez compris, d'être le beau-fils. Edda est quelqu'un d'extrêmement dynamique, sait ce qu'elle veut. Quand elle a décidé de faire quelque chose, ça s'exécute toujours et toujours très bien. Et au travers de ça, une de ses qualités, c'est que Edda sait énormément très bien écouter. Elle est prête de se retirer, d'écouter, d'entendre ce qu'on a à lui dire. Et vous verrez, ça ressortira dans le moment qu'on va partager ensemble. Donc Edda, qui est la maman de Liliane, dont j'ai l'honneur d'être l'époux. Et pour l'anecdote, je ne sais pas si anecdotique que ça, ça fait 28 ans qu'on est mariés. Et c'est aujourd'hui qu'on se marie. Il y a 28 ans, je n'ai encore pas souhaité là.
Bon anniversaire.
Donc Liliane n'est pas simplement à l'image de sa maman, dynamique, etc. Quand elle veut quelque chose, en général, elle l'a. Mais la qualité, une des qualités qui ressort, et qu'on verra aujourd'hui, je pense que je peux dire de Liliane, c'est qu'elle est d'une extrême immense honnêteté. Elle veut que la vérité soit présente, et ça ressort tout au long de sa vie, dans les temps plus difficiles ou plus heureux. Et Liliane, elle veut vraiment que les choses soient vraies. Et puis, elle aussi, tout au travers, de plus en plus, elle met Dieu au centre de sa vie et ça la dirige dans tout ce qu'elle fait, ou presque. Et puis, la dernière, ma très chère fille. Alors, Camille, c'est un peu l'autre ballon de sa maman. C'est la douceur personnifiée. Mais Camille, elle sait ce qu'elle se veut. Elle sait très, très bien ce qu'elle se veut. Et puis, aussi, une petite particularité, c'est que aujourd'hui, je peux l'appeler Camille Fabergé, mais dans 4 jours exactement, elle va changer de nom, puisqu'elle se marie civilement mercredi. Et samedi prochain, pas à la même heure, un peu plus tard, on va célébrer son mariage. Donc vraiment, merci à vous. Merci à vous tous. Je suis assez vite, mais bonne matinée à chacun.
Merci beaucoup, Catherine. Je passe la parole à ma maman.
Va commencer.
Voilà, nous deux, mon mari qui est là. Je m'appelle Edda Penaud, Pierre Penaud bien sûr, mariée depuis 52 ans. Lui, il était décorateur, moi plutôt commerçant. Et nous vivons depuis notre naissance à Zurich, où nos enfants sont nés. 4 merveilleux enfants, Liliane, Boris, Francis et Mikey. Alors, avec eux, nous avons vécu pendant 16 ans dans les Antilles, en Guyane, dans les Antilles, pour la mission. Mais une fois rentrés en Suisse, à cause de la scolarisation de nos enfants, il était nécessaire reviennent, donc on revient en Suisse. Ils se sont mariés petit à petit et nous avons continué le travail pastoral les églises, en donnant des séminaires de couple pendant 20 ans. Aujourd'hui, heureuse, nous sommes retraitées. Il faut bien, après quelques années de travail, voilà, justement. J'ai 74 ans, et puis Pierre, il a 77. Oui, retraitée. Alors, pour le moment, nous travaillons, nous continuons notre travail. Et avec les Gédéons, vous connaissez bien ceux qui distribuent les Bibles, voilà, ça nous occupe beaucoup. Et en plus, j'ai découvert la teinture, si j'ose dire, ce qui me fait beaucoup de plaisir. Mais notre plus grand désir, c'est de trouver du temps pour le dialogue avec nos enfants, nos petits-enfants, les conjoints, qui nous semblent très à cœur. Voilà que le thème de ce matin m'est très à cœur, très important.
Voilà, bonjour aussi à mon tour. Pour la prochaine fois, on cherche un meilleur bimère, parce que je crois que c'est le bimère qui est vraiment pourri. Vous voyez presque rien. Si vous avez des bimères disponibles, on les prend. Je vis donc à Mie avec nos trois enfants. Bon, plus parce que Sven s'est marié il y a 6 semaines. C'était une été très intense. 2 mariages cet été. Une photo un peu plus actualisée est celle-ci, parce que nos trois enfants sont en couple. Et nous sommes vraiment privilégiés de côtoyer nos beaux enfants. Donc, ça s'appelle comme ça, beaux enfants? Oui, beaux fils, belles filles. Je travaille à 60% dans une organisation chrétienne qui s'appelle Campus pour Christ, qui est basée à Lausanne. Je travaille essentiellement pour des événements féminins. Tout ce qui conjugue féminité et foi, c'est mon rayon. Nous organisons des conférences, des week-ends, des cours, des séminaires. Voilà. Et dans mon temps libre, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir pousser mes dahlias. Je suis une jardinière assez flemmarde, mais je suis prête à beaucoup d'énergie pour une dahlia. Voilà, alors si ça vous intéresse, je suis toute fière de vous montrer mes dahlias dans mon jardin, jusqu'au premier gel, si encore possible de les voir. Voilà. Camille, à toi la parole.
Bonjour. Alors, comme mon père l'a dit, je suis Camille Favargé encore quelques jours. Bientôt Camille Vignette. j'ai 25 ans et je travaille à Genève dans le foyer Au cœur des grottes, qui est un foyer pour les femmes et leurs enfants, si elles en ont, qui sont victimes de violences conjugales ou de traite des êtres humains. Ça fait 2 ans que je travaille là-bas comme éducatrice. C'est challengeant, mais j'apprends beaucoup. Et sinon, je suis dans l'église de ICF à Genève, où pendant 5 ans, j'étais une des responsables avec d'autres du groupe de jeunes, où on a vécu plein de très belles choses. Et là, je suis un petit peu en transition pour trouver ma place à l'église. Et puis, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime aussi beaucoup les choses créatives, la peinture. Mais ma grand-mère et ma mère sont très créatives, alors je pense que j'ai pris ça d'elle. Voilà. Et ça, c'est une photo de, on voit pas bien, mais de Ruben et moi, en vacances.
Il y a 17 ans, ici, dans le Café Contact, à Versoix, ma maman et moi ont donné ensemble une conférence « Telle mie, telle mère, telle fille ». Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui étaient là il y a 17 ans? Ça, c'est des personnes fidèles, hein? Oui. C'était une conférence vraiment émouvante pour nous, parce que c'était une conférence qui nous permettait de raconter la réconciliation que nous avons pu vivre entre mère et fille. Je remercie beaucoup cette équipe de l'époque, qui est retraitée maintenant, mais vraiment de nous avoir offert cette occasion.
Donc ma maman, elle était publiquement, elle me demandait pardon pour des maladresses qu'elle avait fait à mon égard. Et ça permettait vraiment à nous deux à continuer à faire un chemin ensemble. Camille avait 8 ans à l'époque. Et sans le savoir, sans le réaliser, pendant que ma maman me demandait pardon, à mon tour, je commettais plein de maladresses avec ma propre fille. À l'époque, à 8 ans, une petite fille n'a pas les mots, ou elle ne sait pas comment l'exprimer, ou elle croyait que c'était normal, tu as une relation mère-fille comme ça. Et heureusement, à l'âge de 18 ans, elle a trouvé les mots, elle a pu me le communiquer. Et depuis, elle a 25 ans aujourd'hui, on a pu faire tout un chemin. On va vous raconter ça plus en détail vers la fin de notre conférence. Donc, je me sens vraiment, vraiment, je vous remercie le comité de nous avoir offert de nouveau l'occasion de parler de notre relation. C'est très délicat, hein, les relations. Mère-fille, c'est fragile. Et ici, je suis toute touchée qu'il y a beaucoup de mamans avec leurs filles aujourd'hui. Donc, c'est vraiment encourageant aussi pour nous de voir que, voilà, vous êtes là. Merci pour votre venue. Je souhaite à mon tour prolonger l'héritage que m'a donné ma maman. Elle m'a demandé pardon et à mon tour, vraiment avec Camille, on est dans un processus aussi. Moi, je suis dans un processus de demande de pardon. Il me semblait important qu'on le dise. Et maintenant, je te passe la parole.
Voilà, je continue. Dialoguer, c'est bien sûr demander pardon, accorder le pardon, entre autres, n'est-ce pas? Mais dialoguer, comme dit Larousse, échange verbal en vue de trouver un terrain commun. Mais nous les trois, on est tellement différentes. Camille, ma petite fille, grande fille, elle vit dans son monde, Instagram, on dirait. Liliane, son monde, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé Ikea. Et pour moi, je devrais dire, avec mes sœurs là, promenade du dimanche. Routine du dimanche. Voilà, c'est un peu ce qui caractérise notre génération, notre monde. Et comment trouver des dialogues qui intéressent toutes? Comment échanger si on vit sur 3 planètes différentes? Est-ce que c'est possible? Que diriez-vous? Il faut trouver une solution. Il faut essayer d'aborder des sujets. Il faut faire le premier pas. Le dialogue, c'est comme un pont à l'autre génération. Ça se fait par le dialogue. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? N'est-ce pas? Alors, je dirais le dialogue comme une salade de fruits. Soyez pas trop compliqués. C'est demander, poser des questions justement, échanger des avis, des opinions, se disputer, mais oui, ça fait partie. N'être pas toujours d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je ne comprends pas pourquoi tu fais cela. Et le dialogue n'est jamais un monologue. Je dois faire très attention parce que nous, on a bien d'expérience, on a vécu beaucoup de choses. Et je pourrais dire à ma petite fille, oh tu sais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas la prédication qu'il faut, c'est un dialogue, salade de fruits, tout simplement. Voilà. Dialoguer.
Lire, peut-être le lire.
Je sais pas. Comment si était le dialogue avec ta maman? Voilà. Là, j'aimerais voir une photo de notre famille. Elle est un peu brouillée, mais vous allez voir, c'est une grande foule. Voilà, c'est ma mère qui est là au milieu, mon père derrière, mes cinq sœurs et mes trois frères. Oh, merci. Oui, justement, comme vous pouvez voir sur cette photo, ma mère est entourée de cinq sœurs et de mes trois frères. Voilà notre commerce de fruits et légumes à Zurich. Vous pouvez vous imaginer que d'avoir des moments d'intimité avec ma mère parmi une telle foule, je dirais même un troupeau, c'était pratiquement impossible. Elle n'avait pas simplement le temps pour me prendre sur ses genoux ou bien de parler de cœur à cœur avec moi. Elle était trop occupée. Elle était commerçante, elle travaillait avec mon père, elle était maman, bien sûr, mais elle déléguait la responsabilité à des jeunes filles qui travaillaient dans notre foyer. C'était ces jeunes filles qui étaient notre interlocutrice. C'est avec elle qu'on parlait des problèmes. Ou bien moi, j'avais pris l'habitude de parler avec ma grande sœur ou avec la sœur qui me suivait. C'était Rita Miguel, je ne sais pas si vous la connaissez. Eh bien, c'est pratiquement non existant, le dialogue avec ma mère. Je ne connaissais pas tout ce qui se passait parmi le troupeau. Mais le troupeau qui me donnait un sentiment d'appartenir, de valeur aussi, parce que j'étais une des sœurs, ouais. Et voilà, ce manque, je le ressentais même pas. Je ne savais pas qu'il y a une maman qui prend du temps pour son enfant. Je ne l'ai pas vécu. Et je ne veux pas dire c'est la raison pourquoi je ne l'ai pas fait avec toi, mais ça certainement aussi, oui, avait raison, je dirais. Mais le dialogue, comme je le connais aujourd'hui, avec toi et avec Camille, je ne l'ai pas connu. Et merci Seigneur, tu nous as donné une solution à ce problème.
À mon tour, voilà la photo que je vous présente. C'est le jour de mon baptême. C'est mon papa qui me baptise dans une rivière entourée de mes amis, mes connaissances. Mes parents donc sont partis. J'avais à peine 4 ans avec deux frères et encore le troisième frère est né très vite à l'autre bout du monde, loin de la famille, loin des parents, des grands-parents, des cousins, cousines. Et les deux sont très aventurieux, téméraires. D'habitude, on a un seul parent hyperactif, j'en avais deux. Ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Et j'ai pu vraiment observer deux personnes extrêmement généreuses. Ils ont donné leur vie pour cette mission. Ils se sont donnés corps et âme, vraiment pour des autres. Et encore aujourd'hui, ils le font. Hein. Ils n'ont jamais un moment tranquille. Même à la retraite, ils courent vraiment pour... Oui, ils sont vraiment très disponibles pour les autres. J'ai beaucoup admiré ma maman. Pour moi, elle était la femme idéale. Je savais qu'elle était très intelligente. Je savais qu'elle avait la réponse à toutes mes questions si je devais en avoir une. Et par contre, avec mon papa, je me suis beaucoup disputée. C'est un peu lui qui a pris toute ma frustration adolescente. Il me faisait pitié des fois parce que des fois je l'ai boudé pendant 2 semaines, je ne le regardais pas. Il a perdu ses cheveux à cause de moi. Mais ma maman, je la mettais sur un piédestal, vraiment. Et tous mes petits soucis de tous les jours, je suis quelqu'un plutôt bileuse, soucieuse, je les gardais pour moi. J'avais vraiment une grande, grande besoin de protection, de sécurité, d'attention. Et ma maman, bah, puisqu'elle n'avait pas reçu, elle ne savait pas qu'on pouvait en donner et qu'en plus, ils avaient plein de travail. Et moi, je n'ai pas su qu'on pouvait, avec les petits soucis quotidiens, aller vers une maman et lui pleurer. Je me souviens, ici j'ai une amie, Valérie, son fils était haut comme trois pommes il y a quelques années, il lui a dit « Maman, j'ai peur ». J'ai regardé ce petit bout et j'ai dit « Mais moi, à 40 ans, je ne sais toujours pas diagnostiquer le mot « j'ai peur ». Toi, comment tu arrives si petit à savoir « j'ai peur » et de savoir qu'on peut aller vers une maman, de savoir que maman peut l'entendre, que maman va l'accepter? Pour moi, c'était impensable que c'était possible. Donc voilà dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Heureusement qu'il y avait des chats. J'ai tout raconté, tous mes soucis à mes chats. Donc on a beaucoup déménagé, tous les 3 ans on déménageait, et certaines fois les chats venaient avec, mais quand on les laissait derrière, bah, je remercie Dieu pour les chats, parce qu'ils ont été vraiment ma consolation. Mon chat me comprenait, j'avais l'impression qu'il trouvait que c'était injuste comme j'étais traitée. Vraiment, il me comprenait, c'est drôle, hein. Comme les animaux domestiques aussi peuvent être une consolation pour nous. Par contre, je savais que je pouvais aller vers ma maman pour des très très grands sujets et je savais qu'elle pouvait me répondre. Alors, je crois 2 fois dans mon enfance ou adolescence, au bout de 4 ou 5 semaines de tourments intérieurs, j'allais finalement la trouver dans sa chambre. Elle lisait toujours le soir dans sa chambre et je savais que je pouvais m'épancher et je savais qu'elle allait avoir une réponse et je savais que sa réponse allait me consoler. Mais vous voyez, 2 fois dans une enfance, dans une vie, c'est vraiment peu. C'est curieux, hein, comment on fonctionne, mais c'est comme ça. Voilà. Camille, à toi la parole.
Ok. Alors moi, j'ai grandi avec mes 2 frères, qui sont plus petits que moi. J'étais la fille aînée. Et puis... voilà, j'ai choisi une photo, on ne voit pas très bien, mais c'était ma maman et moi en photo, dans un photomaton. J'ai trouvé très chou cette photo, mais je crois qu'il y avait une histoire comme quoi, moi je ne m'en rappelle plus, j'étais trop petite, mais que c'était, ma mère, elle a culpabilisé parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais et elle voulait que ça soit, qu'on ait un moment chou entre nous, donc on a été faire des petites photos. Et voilà, pour moi, bon... j'ai la peine à vraiment me rappeler un peu de toute mon enfance comme ça, mais des flashs un peu que j'ai, c'est que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup passer du temps avec ma maman. Je me rappelle qu'on était souvent avec mes frères et moi, on lisait des livres. Enfin, ma maman, elle allait à la bibliothèque louer des livres et puis on les lisait ensemble. Et c'était un moment que j'appréciais beaucoup. Et je pense que j'étais très admirative de ma maman. Elle faisait beaucoup de choses avec les jeunes, elle était aussi, comme ma grand-mère, très disponible pour les gens autour. Et du coup, je crois que c'est plutôt ma mère qui m'a rappelé ça, parce que j'ai de la peine à m'en rappeler, mais que des fois, on se sentait un petit peu qu'elle passait plus de temps avec les autres qu'avec nous, et que c'était difficile pour nous à vivre. Et je me rappelle aussi parfois que j'avais un peu peur des réactions de ma mère. Elle avait un peu des sauts d'humeur qui pouvaient être assez violents. Et du coup, des fois, j'ai un peu ce sentiment d'un peu peur que si ma maman... Je voulais tout bien faire et je voulais que mes frères... j'allais vers mes frères et je leur disais « Chut, maman, elle est fatiguée, il faut pas l'embêter, il faut qu'on soit calme. » Donc j'avais un peu ce sens de la responsabilité comme ça. Et je pense qu'ensuite, ado, je me suis beaucoup retenue. Et encore maintenant, des fois, c'est un peu difficile pour moi. Je sens un peu presque physiquement que je n'ai pas envie du dialogue, je n'ai pas envie. Et c'est plus fort que moi, je n'arrive pas trop à contrôler ça. Et donc, quand j'étais ado, je mettais beaucoup de retenue avec ma mère et je l'ai pas mal envoyée balader, je pense. Mais, et puis voilà, comme elle a dit, moi, j'ai pu à des moments vraiment lui dire que j'étais... ça me blessait et puis je suis de nature à vouloir garder aussi pour moi et puis à pas oser déranger, vouloir dire quand ça va pas. Donc, mais j'ai, je pense que j'ai osé le dire et on a eu des discussions qui étaient un peu douloureuses mais qui, je pense, ont fait avancer les choses. Et maintenant, on a une bonne relation, je pense, mais voilà, il y a encore ces processus, ces mécanismes un peu de défense que j'ai qui restent. Et puis c'est pas toujours facile quand ma mère, des fois, elle veut venir vers moi. Je la repousse, mais on apprend.
Voilà.
Le dialogue, pourquoi le dialogue est-il important? Aujourd'hui, je sais mieux. Aujourd'hui, je rattrape. Je sais que j'ai encore la chance de faire mieux. Je me dis que sans se parler, partager nos peines et nos joies, poser des questions, bien écouter avant de parler, essayer de comprendre l'autre, nous sommes en danger de nous renfermer dans notre monde, une sorte de tour protectrice. Mais c'est finalement la solitude pure, n'est-ce pas? Le dialogue est vital à notre bien-être, à notre développement psychique et physique. Bonne communication donne l'énergie, joie et confiance. Parce que pouvoir exprimer nos pensées, nos peurs, nos joies, tous les sentiments profonds nous rend heureux, finalement. Mais, bien sûr, il y a toujours un risque au dialogue. Il y a toujours le risque de se heurter, d'être blessé, d'être mal compris. Mais malgré tout, il faut continuer, n'est-ce pas? On a vécu ça. Il faut rester à la table. Dans notre, en Suisse, on dit quitter la table. Quand un discours ne nous plaît pas, on claque la porte, on sort. Voilà, c'est des fois le dialogue. Non, mes chères dames, ça ne se passe pas comme ça. Rester, discuter au fond, ça c'est important. Attendre, peut-être un moment de prière. Vous pouvez peut-être dire, hey, on ne trouve pas de solution, c'est trop blessant, c'est difficile. Pourquoi prions ensemble, n'est-ce pas? Ça serait une solution. Ou bien, on va continuer le dialogue demain. Peut-être aujourd'hui, c'est plus, c'est trop blessant, c'est trop difficile. Mais de donner une chance au lendemain, de continuer le dialogue, c'est très important. Pas quitter la table, justement. Et voilà que nous apprenons, tout d'abord, à travers du dialogue, nous comprendre, nous connaître et l'autre. C'est toujours une réflexion, c'est toujours un ping-pong, n'est-ce pas? Ah, tu as dit ça, c'est comme ça, tu penses comme ça. Alors, c'est pour ça que le dialogue est tellement important, qu'on sache qui nous sommes finalement.
Les conditions du dialogue. Donc ce dialogue qui est l'échange intime, où je partage avec l'autre des choses vraiment au plus profond de moi, où je suis ouverte à ce que l'autre puisse aussi partager ces choses toutes, tout intimes, tout secret de mon être. C'est seulement avec certaines personnes choisies, n'est-ce pas, que nous partageons. Nous ne pouvons pas choisir avec beaucoup, échanger, mais si c'est avec nos enfants, c'est tellement important si on arrive. Je dirais les conditions du dialogue et je dirais que je ne suis pas une grande spécialiste puisque je suis en route hein, et Camille m'a beaucoup appris sur comment dialoguer. Quelques pistes que je découvre encore. Donc le socle du dialogue, c'est le respect pour l'autre, respecter la personne en face et lui faire confiance. J'ai confiance en elle et je veux vraiment avoir cette confiance. Mais ce dialogue est délicat, c'est fragile, ça se construit petit à petit. Et si on a loupé, c'est jamais trop tard, jamais trop tard. C'est ça vraiment notre. Nous espérons pour nous tous qu'on réalise, bah, jusqu'à maintenant il ne s'est rien passé, mais c'est jamais trop tard, vraiment. Moi je crois jusqu'à la tombe, hein, on a encore la possibilité de dire, si s'il te plaît, parlons-nous. Il me semble, puisque c'est dialogué de manière intergénérationnelle, je vais avancer un point. Il me semble que c'est à l'aîné de prendre l'initiative. Alors des fois, c'est l'enfant hein, qui dit, elle pousse la porte, mais c'est vraiment à nous d'aller vers nos enfants, de prendre l'initiative, de montrer de l'intérêt, de poser des questions. Comme Dieu, la première fois mentionnée dans la Bible où il parle, c'est en fait une question. Et c'est beau, les questions, ça permet à l'autre de répondre, c'est respectueux la question, parce que ça donne la parole à l'autre. Être disponible, être présent. Et comme disait ma maman, une envie de comprendre l'autre, vraiment. Camille et moi, des fois je dis, on est deux univers. Ma maman, je la comprends, je crois qu'on fonctionne un peu pareil, mais Camille, c'est un autre univers. Je suis quelqu'un d'expansif, extravagante, un peu flamboyante comme ça. Et Camille, c'est la discrétion. Camille, elle est posée, elle est délicate, elle est pas délicate, fragile, mais elle est élégante. Moi, je me souviens, quand Camille est née, je ne savais pas ce qui m'arrivait, parce que déjà, pour la petite histoire, ma maman, elle est plutôt un peu brute comme ça, garçon manqué. Savez-vous que ma maman, quand elle était petite, elle jouait à être le chien. Elle sait très bien courir comme un chien. Elle a étudié en détail comment les jambes s'articulent, à quel moment. Elle peut vous faire le chien et elle peut vous faire le cheval parce que les jambes ne s'articulent pas la même moment, la même. Pour son anniversaire, elle voulait un équel. Et un truc autour du cou, elle mangeait sous la table. Une drôle de maman. Donc, tu vois, moi, la seule fille de la famille, avec une maman pareille, moi, la féminité, et ça, c'est pour une autre conférence. Comment la féminité se construit? Et là, j'en ai pour 3 heures à vous raconter, parce que moi, je ne voulais pas de fille, parce que je dis une fille, moi, je ne sais pas quoi en faire, j'ai 3 frangins. Et j'ai une maman très, très cheval, comme ça. Elle aime beaucoup les chevaux. Elle s'est adoucie avec l'âge, mais elle était vraiment, ça y allait, hein. C'est mon papa qui nous a maternés hein, à la maison, je crois que voilà. Mais Camille, elle est arrivée. Et j'ai dit, oups, gloups, une fille, comment je vais m'en sortir, je ne sais pas quoi faire. Et Camille, c'était la délicatesse impersonnifiée. Et Camille était comme une bombe sur mon cœur, vraiment. Et grâce à Camille, j'ai appris à devenir femme. C'est peut-être beaucoup de responsabilité à mettre sur une fille, mais j'ai appris la délicatesse, j'ai appris la sensibilité. Elle m'a appris comment être posée et calme, et écouter l'autre, et pas la brusquer tout le temps. Et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai blessé Camille, parce que j'étais un peu tellement... Voilà. J'ai perdu le fil. Tout ça, c'était anecdotique. Où est-ce que j'en suis? Oui, c'est de comprendre l'autre, d'entrer dans son univers, d'essayer de comprendre sa vision du monde, son univers, respecter son rythme. Moi, je suis du matin, Camille est du soir. Donc le matin, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, ça ne sert à rien d'essayer de la questionner. Elle est du soir. Et moi, je ne suis pas du soir. Donc le soir, je suis crevée. Donc en fait, souvent, on se retrouve à midi. Midi, c'est le meilleur moment de dialoguer ensemble. Là, les deux, on est fit. Il faut trouver le bon endroit, le bon moment, mais les voitures, je ne sais pas qui de vous trouve que les voitures sont très très chouettes comme endroit pour parler, parce qu'on est assis côte à côte, on ne se regarde pas dans le blanc des yeux comme ça. On peut laisser des moments vides comme ça, des espaces morts, des espaces vides, et on regarde dans la même direction et on peut se parler. Mais Camille m'a aussi, j'ai une fois vraiment engueulé Camille dans une voiture, donc ce n'est pas toujours le cas, on peut aussi faire du mal dans une voiture, mais Camille m'a appris qu'on peut utiliser d'autres formes de communication comme l'écriture. Alors pour des sujets très très complexes, Camille commence à m'écrire des lettres, parce que je suis tellement intensive comme personne que très souvent je l'agressais par ma façon beaucoup trop imposante. Et on a commencé à s'écrire. Je dirais, les dialogues sont comme une danse. On fait un pas vers l'autre, et après on attend. L'autre, si l'autre ne répond pas, c'est important d'attendre. Hein? La danse s'arrête si l'autre ne réagit pas. Donc de faire un pas après l'autre. Il y a un livre qui est vendu, je vais faire une petite pub après, les langages de l'amour. C'est important de comprendre comment l'autre peut se sentir aimé. Gary Chapman, c'est un Américain qui a résumé de manière très succincte, on peut dire c'est un peu simpliste, mais c'est finalement, il y a pas mal de vérité dans ce livre, en 5 différents types de personnalités ou types de recevoir l'amour. Il explique qu'on peut ressentir de l'affection de l'autre de 5 façons. Et je vais juste les noter, mais sachez que le livre est vendu à l'extérieur. Donc, moi, je sens l'amour de l'autre s'il passe du temps avec moi. Je peux sentir l'amour de l'autre s'il me rend des petits services. Ou bien en recevant des cadeaux de l'autre. Ou bien des paroles valorisantes. Ou bien des câlins, hein, le toucher, le contact physique. Donc, important pour moi en tant que l'aînée, moi je suis passée du temps, ça c'est ma façon, Pierre-Claude le sait, et il est vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Pierre-Claude parce qu'il n'est pas du tout du matin. Moi, je suis vraiment du matin, et pour moi, un moment le matin où on passe du temps ensemble, il me l'offre, et c'est un grand cadeau qu'il me fait parce que lui, ce n'est pas du tout son moment. Camille, j'ai l'impression que c'est des cadeaux, donc ce n'est pas parce que moi, j'ai ce langage d'amour de passer du temps, et j'ai envie de passer du temps avec elle, mais peut-être. Son langage est un autre langage. Donc à nous de trouver quel est le langage de l'autre personne. Comment est-ce qu'elle peut ressentir l'amour? Une autre façon, une condition du dialogue, c'est de reconnaître ses erreurs. Ça, c'est vraiment une facilitateur de dialogue. C'est de dire, je suis désolée, je t'ai fait du mal, je t'ai fait du tort, je me suis mal comportée, je te demande pardon. Une autre condition, c'est de travailler son propre histoire. Moi, ma responsabilité, c'est de comprendre d'où je viens. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Et de faire de l'ordre dans mon propre passé, de me réconcilier avec mon passé, d'accorder le pardon aux gens qui m'ont blessé. Parce qu'en comprenant ma propre histoire, je peux vraiment m'ouvrir à l'autre. Si je suis pleine de blessures et vraiment c'est bloqué, j'ai beaucoup plus de peine à m'ouvrir vers l'autre. Oui. Et là, j'ai un point un peu étonnant, peut-être vous allez trouver ça étonnant, mais il me semblait important de le dire. Pour pouvoir avoir la relation de dialogue avec Camille, c'est important que j'honore son autre parent. Je ne suis pas le seul parent de Camille. Elle a un autre parent, et il me semble important que j'honore cette personne. Alors, aujourd'hui, on a une bonne relation, Pierre-Claude et moi, mais on est vraiment passé par des très sales années. On a vécu des grands problèmes de couple. Et aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile aujourd'hui. Alors, l'erreur venait de ma part, j'accuse pas mon mari. Moi, j'étais tellement blessée, tellement en colère dans la vie que j'ai vraiment rendu notre vie de couple très difficile. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux honorer le papa de Camille. Et c'est une façon pour moi de gagner des points humulus aussi, hein, un tout petit peu. Mais même si on n'est pas marié, franchement, notre enfant, il a un autre parent. Et même si nous ne vivons plus ensemble, il est important. Donc, même si on est divorcé, d'honorer. On ne doit pas dire des mensonges. Je ne suis pas donc en train de dire il faut. Mais témoigner du respect ou en tout cas ne pas médire devant l'enfant constamment, c'est vraiment très lourd et ça alourdit beaucoup le dialogue avec son enfant. Et je dirais un autre point encore, être prêt, si l'autre n'a pas envie, de ne pas être dévasté. Alors, c'est très douloureux. Je veux le dialogue, mon enfant ne le veut pas. De bien s'entourer. D'avoir un soutien d'amis qui sont là, qui nous soutiennent, pour ne pas faire peser sur mon enfant toute ma frustration que moi, j'ai tendu la main et elle n'en veut pas. Et c'est ma responsabilité de m'entourer et d'avoir un cercle de soutien qui fait que je peux encaisser le coup. Sinon, c'est lourd aussi, ça alourdit le dialogue. Et dernièrement, et Camille l'avait mentionné, avoir de l'espérance pour notre enfant. Croire en elle, croire en lui, même s'il fait des choses autrement que je l'aurais fait, même s'il ne prend pas du tout le chemin que je veux qu'il prenne, il est complètement différent de moi, de trouver en moi l'espérance pour lui, la confiance, et aussi pour sa génération. C'est bien mieux quand moi j'étais petit, tout était mieux, le monde était mieux. Quoique, il y a plein d'améliorations, je trouve. Mais j'ai besoin de garder l'espérance pour la prochaine génération, de croire en eux, de dire, eux auront les outils pour la prochaine étape. Et voilà, il me semble, voilà, quelques conditions pour que le dialogue se facilite.
Eh bien, le dialogue, une certaine règle peut-être aussi au dialogue, peut-être. Les différents niveaux du dialogue. Vous dialoguez toujours, n'est-ce pas, avec vos voisins, avec vos téléphones, avec ceux qui vous rencontrez. Et voilà, c'est un dialogue de tous les jours, du simple. Je pourrais dialoguer avec Camille et avec Liliane, ce que j'ai fait, je n'ai pas fait, ce que mes amis font et font pas. Le dernier cri de la mode et de n'importe quoi. Mais ça ne vous satisferait pas. Les pures fêtes, c'est bien pour entrer en dialogue. C'est bien pour faire le premier pas. Comment vas-tu, n'est-ce pas? Avec une question, comme Liliane l'a dit. Mais on désire de monter un peu plus ou un peu plus profondément nos sentiments, comme je viens de dire, partagez vos sentiments, ce que vous pensez, vos peurs, vos craintes, avec Camille, avec Liliane. Ça, je n'ai pas compris. Ah, j'ai fait cette faute. Ah, j'ai raté mon gâteau. Vous savez, on ne raconte pas que les choses qu'on a bien faites. C'est aussi bien de dire, oh ya ya, je suis complètement paumée. Est-ce que tu pourrais me conseiller? Est-ce que tu pourrais me donner un conseil concernant ci et ça? N'est-ce pas? Les différents dialogues, au niveau de dialogue, aussi le spirituel, je dirais, c'est très important. Qu'est-ce que je vis avec mon Dieu? Comment il m'a parlé aujourd'hui? Comment il m'a sorti de cette situation qui était difficile? N'est-ce pas? Ce sont des dialogues à différents niveaux, on pourrait dire, mais ce qui sont précieux, elles sont prêtes, c'est très très bien, c'est très important de dialoguer ainsi sur tous les niveaux, le spirituel, le tous les jours et le sentimental. Mais voilà, c'est quand même un sujet qu'il faut aborder. Liliane l'a touché. Quand le dialogue n'est pas possible, vous ne pouvez plus parler avec votre fille. Elle s'est complètement enfermée. Elle rentre de l'école et puis elle claque la porte et va dans sa chambre. Ça ne joue pas du tout. Vous ne savez pas ce qui se passe dans votre fille. C'est douloureux, c'est difficile. C'est un moment où on doit dire, qu'est-ce que je vais faire? Tu viens de nommer, de dire, il y a des amis qui t'entourent, qui peut-être peuvent t'aider, qui t'ont donné des bons conseils dans cette situation. Mais, c'est pas seulement ça. Il y a des dialogues qui sont rompus à cause de la mort. N'est-ce pas? C'est plus possible de parler avec ma mère. On vient de parler des trois générations. J'ai fait des fautes. Elle a fait des fautes. On s'est pardonné, j'ai pardonné, elle a pardonné. Mais peut-être vous avez une maman à laquelle vous auriez bien voulu encore parler, dire quelques mots, dire ce que vous avez vécu avec elle, et c'est plus possible. Elle est morte. C'est très définitif. Alors que faire? Un tout petit conseil. Demander l'aide chez quelqu'un, chez quelqu'une, un témoin avec lequel vous pouvez peut-être écrire une lettre à votre maman décédée, ou peut-être aller à la tombe de votre maman, de prononcer peut-être encore les pensées dans cette manière. C'est possible. Il y a aussi un refus de dialogue. Un refus de dialogue, on vient de parler de peut-être votre fille, peut-être aussi de ma mère. Je viens vous dire plus tard, ma mère, je pense qu'elle n'aurait pas compris ce que je vais lui parler. Mais à ce moment-là, demandez de l'aide du Seigneur. Priez, attendez. Bon, avec ma mère, ça n'était plus possible. Et encore, il y a la possibilité que votre partenaire ou l'interférence d'autrui qui vous défend de dialogue avec votre fille ou avec votre petite fille. J'ai vécu une dame, une amie, laquelle sa belle-fille a complètement défendu de toucher à ses enfants, de parler à ses enfants. Alors, c'était un chagrin énorme pour mon amie, parce qu'elle n'avait aucun droit de parler. Que faire? Alors, elle ne fait que attendre, prier, être quand même disponible, être là. Elle attend le moment. Alors, ce sont des difficiles situations, mais il y a des solutions.
Tout a commencé pour notre demande de pardon en famille le jour de mon mariage. Ben, j'avais 22 ans, donc il y a pile poil 28 ans aujourd'hui. J'étais prête à partir à l'hôtel avec Pierre-Claude et de partir en voyage de noces. Et ma maman, cette femme que j'idéalisais, qui pour moi était le summum de ce qu'on pourrait être, elle me prend comme ça dans les bras. Elle me dit, tout d'un coup j'ai un gros doute, est-ce que j'étais assez présente pour toi? Et j'étais vraiment perdue, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, je ne sais même plus ce que j'ai répondu, mais cette question m'a vraiment secouée et je n'avais pas de réponse. J'ai dit, mais oui, bien sûr, mais oui. Et puis on s'est mariés et en très peu de temps, nous avions eu les trois enfants, en trois ans et demi, on a vraiment enchaîné. Et je dirais que la plus difficile période, la période la plus difficile de ma vie a commencé d'être jeune maman, de jeunes enfants avec un tel besoin émotionnel en moi. Je disais à Pierre-Claude, tu sais, c'est pas sage de me laisser avec ces trois enfants. Je pourrais leur faire du mal. Je réalisais vraiment mes limites. Et heureusement, il y avait des personnes comme Suzy Meyer. Je me souviens un jour, Pierre-Claude a appelé Suzy, elle a dit, viens, elle pète un câble. Elle a besoin d'aide. Et Suzy, t'es débarquée chez nous et merci. Parce que j'étais très souvent vraiment à mes limites, mais parce qu'il y avait ces grandes souffrances en moi qui n'avaient pas, je ne comprenais pas pourquoi j'avais toute cette souffrance. Donc, devenant maman, j'ai commencé à comprendre, et avec de l'aide des amis proches, avec des livres, de commencer à repasser ma propre enfance et de comprendre les grands besoins émotionnels que j'avais. Et à l'âge de 28 ans ou 29 ans, un soir, je me vois encore, côte à côte avec ma maman, à Lézin, dans l'appartement de ma belle-mère, je construisais un Playmobil que Sven avait reçu, et c'était le soir, il était trop petit pour le construire, et pendant toute une soirée, j'ai construit cette ferme en parlant à ma maman sans stop, sans s'arrêter. Et j'ai déballé. En fait, mon vécu de petite fille. Et toi, mamie, tu m'as écoutée toute une soirée. Pour moi, cette soirée n'en finissait plus. C'était une ferme très complexe à construire. Et tu m'as écoutée jusqu'au bout. Et je ne crois pas qu'on s'est dit grand-chose. On s'est couché. Et très tôt le lendemain matin, ma maman, tu as sauté dans mon lit. Tu m'as pris comme ça en cuillère, position de cuillère, et tu m'as dit, j'ai pas dormi cette nuit. Désolée, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Aucune mère laisse son enfant exprès. Vraiment, aucune. Mais voilà, mon mieux n'a pas suffi. Mon mieux t'a blessé et je suis désolée. Et c'est vraiment là où une longue période d'apprentissage a commencé. Hein. On a pu assez vite donner cette conférence, mais cette conférence, il y a 17 ans, c'était juste le début. On est encore aujourd'hui en train de travailler à notre relation. Et tous les jours, on continue, hein. C'est pas encore gagné, mais ça se construit petit à petit. Et je te remercie, mamie, de m'avoir permis cela. Et à toi de raconter ta propre enfance.
Voilà. Merci Liliane. Je vous ai décrit la situation de ma famille et le manque énorme du dialogue personnel avec ma mère. Seulement qu'après, Liliane a ouvert son cœur et m'a fait savoir que mon attention envers elle n'était jamais suffisante. Je me suis aperçue que ma mère a fait les mêmes fautes. Si je l'avais confrontée avec ce fait, elle m'aurait certainement dit « Et ma fille, j'ai tout fait. J'ai fait ce que je pouvais faire. Regarde tous tes frères et sœurs, comment j'aurais pu faire autrement. Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Je suis sûre, elle m'aurait dit ça. Alors, sa réponse m'aurait encore plus blessée. Le seul moyen de surmonter cette douleur est, pour vous toutes, le pardon, je vous assure. C'est le pardon. Lâchez prise. Le pardon délivre et calme et donne du confort. C'est un processus. C'est pas d'un moment à l'autre. J'ai dû vraiment réfléchir sur le moment. Je me suis dit, oui, ma maman. Elle était entourée de toute cette foule, de ce troupeau. Elle avait le commerce et tout ça. Elle pensait, elle a bien fait. Non, elle n'a pas bien fait. C'est vrai. Il faut avouer. Il faut dire la vérité. Comme tu dis, la vérité, c'est important. Ça m'a blessée. Ça m'a laissée dans un vide énorme. J'ai rempli ce vide peut-être par jouer le chien, je ne sais pas. Mais quelque part, c'est possible. Une psychologue va me dire pourquoi. Alors, le pardon. Un certain moment, juste après ce processus de se rendre compte combien m'a blessée, que j'ai été blessée, j'ai dû dire, Seigneur, regardez la croix. C'est là où tu as souffert. Aussi pour les manquements de ma mère. Et ça m'a tellement soulagée, ça m'a libérée, comme tu viens de dire. J'ai pu poser ce fardeau à la croix. J'ai ressenti une joie énorme. Et j'ai pu visiter ma mère, elle était encore vivante. J'étais souvent avec elle, j'ai fait son ménage, je l'entourais, puis je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Et j'avais une prière de Seigneur, aide-moi à être avec elle jusqu'à sa mort. Et j'ai pu l'être. J'étais avec elle. Alors, il y a une réconciliation de ma part, je dois dire. Pas de son part, de sa part. Mais le pardon est quand même merveilleux. C'est ce qu'il produit. Libéré ainsi, il est beaucoup plus facile de demander pardon, soit Camille, pour le moment je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, j'étais choquée, là. Et à Liliane bien sûr. Et ça c'est merveilleux, ça c'est vraiment la réponse. On part du dialogue, ouais, un dialogue sans pardon, pas presque pas.
Et puis, donc, ma maman qui me demande pardon, c'était un énorme cadeau de toutes mes copines. Et j'en ai vraiment la grande chance d'avoir beaucoup de copines et beaucoup de connaissances. Je suis la seule qui a cette chance. Donc je réalise que je suis une privilégiée. Et pour nous, notre conférence ce matin, ce n'est pas que vous soyez désespérés, parce que la majorité des mamans mon âge, des personnes mon âge, n'ont pas cette chance. C'est plutôt toi, mamie, qui les représente. Cette peut-être aînée maman qui ne reconnaît pas, mais que moi j'ai reçu cette grande, grande chance. Mais ça n'empêche pas, à notre tour, de le donner. Et mamie, toi, tu es l'exemple type. Tu ne l'as pas reçu, je te demande pardon, mais tu l'offres. C'est un grand acte de générosité. Et moi, à mon tour, du coup, ben, j'avais vraiment envie de continuer cet héritage. Et quand à 18 ans, Camille commence à mettre une distance entre nous, elle a bien fait, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de tellement too much, en fait, envahissante. Et chez moi, c'est moi qui... Je prends beaucoup de place dans le foyer. Et Camille, elle était... Ben voilà, je l'ai un peu poussée dans un coin, et un beau jour, elle s'est levée, elle a dit, eh ben dis donc, un peu de place pour moi, et heureusement. Et au début, ça m'a un peu brusquée, au début, je ne comprenais pas, mais qu'est-ce que là, Camille, et petit à petit, j'ai commencé à apprendre que non, en fait, je marchais sur sa plate-bande, je envahissais son jardin secret par plusieurs moyens, et que Camille et moi, maintenant, ça fait 7 ans, ben voilà, je commence à vraiment à grandir dans ce dialogue avec Camille et de vraiment espérer la respecter dans qui elle est.
Oula. Avant de partager sur ce slide-là, je voulais juste dire avant que... puis on vient d'en parler, on vient de l'entendre, mais j'ai eu moi aussi la chance d'avoir une maman qui était très patiente et qui était prête à se remettre en question. Et je pense que c'est ça aussi qui a aidé que maintenant notre relation elle avance et puis elle se construit, se reconstruit. Et puis c'est pas facile si, de reconstruire maintenant sur quelque chose, enfin voilà, avec des mécanismes, avec des choses qui ont beaucoup bloqué pendant des années, d'essayer petit à petit de retrouver une relation, enfin voilà, de reconstruire quelque chose, mais je suis très reconnaissante parce que tu es aussi patiente et prête à te remettre en question. Alors, merci. Et on voulait... j'ai une petite note. Proposer un regard, enfin mon regard un peu sur les aînés, un peu, voilà, donc je parle pour moi, mais je pense que c'est pour la plupart des jeunes, où un peu l'attente qu'on a du dialogue avec des personnes plus âgées qui nous entourent, on en discutait quand on préparait la conférence, et puis je disais que souvent on parle un peu du clash entre les générations, entre les personnes plus âgés qui ne comprennent pas les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui ne se comprennent pas, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça qui font que ça ne marche pas. Mais c'est vrai que je pense qu'en tant que jeune, on cherche vraiment des modèles et des personnes plus âgées qui nous entourent, qui peuvent être pour nous des modèles, des personnes qui nous inspirent ou nous encouragent. Et c'est vrai que les choses qu'on recherche dans les personnes plus âgées, c'est souvent des personnes qui sont inspirantes dans leur choix de vie ou dans leur capacité à justement se remettre en question, à avouer leurs échecs et à aussi voir leur réussite ou les choses pour lesquelles ils sont fiers. Mais c'est aussi pour des personnes qui gardent une joie, une certaine joie de vivre et qui ne sont pas aigries, parce que souvent on a un peu cette vision, les jeunes, des personnes plus âgées qui peuvent être aigries, justement comme on disait, d'être dire ah, c'est mieux avant, ou c'est nul maintenant les jeunes, ils font n'importe quoi, et c'est vrai, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont discutables, mais voilà, d'avoir des gens, des personnes plus âgées autour de nous qui ont un espoir pour la jeunesse, qui ont un espoir pour, et qui voient les bonnes choses et qui sont prêtes justement à dialoguer. Et puis voilà, pour moi, il y a plusieurs personnes adultes qui m'entourent que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup. Et je voulais dire un petit mot sur mes deux grands-mamans qui sont là. Il y a ma grand-mère Fabergé, la maman de mon papa, qui est quelqu'un pour moi qui est très dévouée pour sa famille. Et ça me touche beaucoup de voir ma grand-mère qui aime sa famille, qui la met au centre
et qui s'est sacrifié beaucoup pour eux. Et ma grand-mère, du côté de ma maman, qui est aussi quelqu'un de très, comme on l'a déjà dit, aventureux, un peu fofolle. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi à voir des personnes plus âgées qui aiment voyager, qui aiment faire plein de choses. Et puis ça, c'est aussi très inspirant. Et juste les deux, elles ont une foi qui est très profonde. Et ça, je pense que c'est la dernière chose que je voulais dire, d'avoir des gens autour de nous qui, voilà, qui ont une foi, qui mettent Dieu au centre et qui peuvent être honnêtes avec leur parcours. Ça, c'est très touchant pour nous les jeunes, enfin, pour moi en tout cas. Et c'est important et on en a besoin. Alors, ouais, c'était le petit mot aparté, mais qui fait partie quand même de tout ce dialogue, parce que c'est des dialogues peut-être avec plusieurs personnes, pas juste dans la famille. On a besoin de ça, je pense. Merci.
Quelle est la pièce de Dieu dans tout cela? C'est lui le centre, c'est lui qui donne les idées, et c'est lui le début du dialogue, comme tu viens de dire. Poser une question, c'était lui le premier, c'est lui notre grand exemple. Aujourd'hui, en rétro-perspective, je vois l'immense amour de mon Dieu Père. Il était à tout moment dans des difficultés, dans des situations où on ne se parlait plus. Il était présent, agissant soit dans ton cœur, soit dans mon cœur, agissant où je ne le voyais pas. Perdez pas courage. C'est lui qui est là. Et si vous faites, si vous confiez tout entièrement en lui, vous verrez, ça vaut la peine. Il va vous répondre, il va vous aider. Il me laisse avec son encouragement de parler de lui à mes petits-enfants, mes enfants, de transmettre ce que Dieu a fait dans ma vie. Combien il est grand, combien a fait des miracles, combien il est omniprésent, même pour vous dans votre vie. Et c'est ça ce que j'aimerais transmettre à mes enfants, la prochaine génération. Et je pense que nous, les dames un peu d'âge, comme moi, vous avez 30 ans, 60 ans, c'est notre devoir. J'aimerais vous rappeler, un fardeau, non, pas un fardeau, c'est un privilège que Dieu nous donne de parler de lui à la prochaine génération. Ce qu'il a fait dans nos vies, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré les péchés qu'on a commis, il est resté fidèle. Ça, il faut partager, ça, il faut transmettre.
Dieu m'a sauvé la vie, vraiment. Il a sauvé mon couple. Et cette image, vous ne la voyez pas bien, mais c'est un peintre anglais, Charles Mackenzie, qui a peint la fille prodigue. Comment est-ce qu'il est ce Dieu? Comment il accueille la fille prodigue? Et là, vous ne le voyez pas très bien, mais c'est un papa qui prend sa fille dans les bras, qui la serre, qui dit « Je t'attendais, je t'attendais depuis tellement d'années, je t'attendais. » Et pour moi, je suis en train de découvrir ce Dieu. J'ai entendu parler de Dieu depuis mon petite enfance, mais ce Dieu, je l'apprends à connaître de mieux en mieux à l'âge adulte. C'est un Dieu qui est vraiment intéressé dans le détail, le quotidien de ma vie. Ce n'est pas un Dieu grand, distant, lointain, qui gère des grandes guerres dans la... Là, j'ai l'impression des fois qu'il a des choses tellement importantes à faire ailleurs. Non, il aime ma relation. Il m'aime, il veut passer du temps avec moi, son plus grand bonheur, c'est juste qu'on se cause. Et je suis en train de découvrir ce Dieu-là, tellement plus proche que je peux imaginer. Il y a une image, ça vient d'un art japonais, ça s'appelle le kintsugi. Le kintsugi est un art de recoller les pots cassés. Et j'aime beaucoup cette métaphore. Cette assiette, à mes yeux, moi je l'ai fait, donc c'est pas vraiment de l'art, c'est ma première assiette kintsugi, c'est cet art japonais. Mais de nos pots cassés peut devenir des chefs-d'œuvre, peut devenir des choses bien plus belles après. Mais il y a une condition. Il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment difficiles et le côté de la détresse et l'aigreur les a ratatinés, ils sont devenus. Mais une vie d'un chef-d'œuvre a besoin aussi de les donner à Dieu. Pour moi, c'est un peu la solution d'offrir à Dieu nos pots cassés et de lui laisser nous laver, nous consoler, parce que ce Dieu, il veut nous consoler. C'est le Dieu consolateur et qui veut nous remettre sur les rails. Et ma vie peut être un chef-d'œuvre malgré les pires détresses ou traumatismes que je peux vivre. C'est possible que vraiment nos vies deviennent des magnifiques chefs-d'œuvre.
Et pour moi, la place de Dieu dans tout ça, je dirais simplement, c'est simple, mais c'est pas facile à vivre, mais c'est Dieu qui me rend, qui m'a rendu et qui continue à me rendre capable d'être vulnérable, puisque la vulnérabilité, ça fait peur de lâcher prise sur des choses, sur ces défenses qu'on peut se mettre. Mais à plusieurs reprises, je le vois, j'ai vu que Dieu, il me dit tout simplement, mais fais-moi confiance, lâche prise, sois vulnérable, et c'est moi qui te rattrape derrière. Et c'est souvent un combat avec Dieu. Non, je ne veux pas, je préfère m'agripper et rester dans ce petit cocon que je me suis construit pour me protéger. Mais voilà, Dieu, c'est un des espoirs qu'il nous donne, une des promesses qu'il nous donne, c'est qu'il est là derrière nous quand on lâche prise et qu'on lui fait confiance.
L'émotion était là, elle était parmi vous, elle était transmise. Que dire ? Beaucoup d'émotions, des images très parlantes. Le dialogue comme un pont, ne jamais quitter la table. Camille aussi, ta jeunesse m'a touchée, Kylian. Je me suis vue et beaucoup d'échos en moi et je suis sûre beaucoup d'échos en vous. C'est ça le miracle. Et notre Créateur, entre les lignes, ce que j'ai ressenti de vous, c'est qu'il nous a donné deux outils, la prière et le pardon. Je trouve ça merveilleux, je voudrais qu'on vous applaudisse. Mais je suis là pour relayer vos questions ou vos réactions. Vous avez entendu au fond, Madame, apprécie le courage.
Est-ce que tu pourrais répéter la question ?
Alors, vous admirez le courage avec lequel ils se sont livrés. Voilà.
Ah, ok.
Non, ce n'est pas une question.
Pas une question.
Merci. Merci beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'on peut relever que vous avez aussi fait un travail de réflexion. Et donc, vous êtes, je crois, réunis à Berne. Et je sens que vous avez tout remué et construit aussi votre réflexion. Voilà. Oui.
Vous vous êtes pardonné entre vous, mais ce que il m'a étonné, il n'avait pas parlé des hommes, parce que le pardon dans le couple entre femme et mari est très important aussi. Et c'est ça qui m'a manqué un peu, mais je pense. La réflexion, mais on ne l'a pas.
qu'elles se sont pardonnées entre elles, mais qu'il manque le pardon de l'homme et de la femme. C'est pas une affaire
oui,
de
oui.
femme,
absolument.
C'est aussi une affaire.
Oui.
Oui, oui, tout à fait, vous avez bien raison. On aurait pu élargir le thème, ça aurait pris encore une demi-heure de plus, mais c'est quand même un aspect très important, parce que nous sommes toujours à deux, n'est-ce pas? Mais on s'est dit, on va rester parmi nous, les femmes, mais le sujet des pères est un grand sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Voilà. On va peut-être alors mettre un point final à notre matinée. Vous pourrez retrouver la conférence enregistrée sur le site qui s'affiche là.
Pas tout de suite.
Mais pas tout de suite. Mm-hmm. Pas tout de suite. Mm-hmm. Voilà. Donc, notre prochaine rencontre, ce sera le 30 mars de l'année prochaine. Je voudrais que aussi souligner la fidélité de notre libraire qui vient chaque fois et qui fait un choix pour nous. Donc vous pouvez retrouver les citations du livre de Liliane. Et que dire encore?
Juste quelques coups de pub. Donc ce livre de Gary Chapman, il est à rendre. Il y a trois, donc le livre de base, c'est Langage d'amour. Et il a aussi fait une adaptation à Les langages d'amour expliqués aux hommes et Les langages d'amour guide pour les ados. Voilà. Et j'aimerais également faire la pub pour un petit cahier qui, malheureusement, elle a une seule exemplaire. Vous pouvez le consulter, mais Véronique, si ça vous plaît, pourrait vous l'envoyer pour 16 francs avec ça, c'est 14 francs plus le poste 2. C'est « Tu comptes beaucoup pour moi », c'est un petit cahier d'amitié, donc il est vide et il y a des questions. Dire du style « Tu es unique parce que… » trois petites lignes. Et là, c'est Camille qui a inventé toutes les questions. Et j'ai une cousine, la cousine de Pierre-Claude, qui l'a mise en page. Donc c'est un petit cahier magnifique à offrir à une copine pour lui dire plein de belles choses. Qu'est-ce que tu apprécies chez elle? Donc il sera en consultation à la librairie.
Sur les tables, pour les personnes qui souhaiteraient avoir nos informations et qui sont nouvelles, vous pouvez laisser vos coordonnées ou votre email. Et puis, je passe la parole à Madeleine.
Et il y avait juste aussi, comme vous voulez vous dire, c'est un coup de pub encore, mais que jeudi prochain, à l'église protestante, il y aura un spectacle qui s'annonce comme L'autre Dieu. Alors, la libraire m'a dit qu'il était profond, hein, c'était un spectacle un peu sur Job, si j'ai bien compris. Et alors on vous invite, si vous voulez participer encore à ce spectacle, jeudi prochain à 20h au Temple de Versoix.
Et puis, en point final, les décorations sont dues à Liliane, à Liliane, et donc vous pouvez les emporter à votre bon cœur, monsieur dame, dans les cousines. Bien. Et bon retour, monsieur. Oui.
J'ai trouvé que c'est la première fois que je viens ici, j'ai trouvé que c'est très beau cette ouverture et partage que vous avez fait, et je pense que seulement les femmes peuvent faire ça. C'est difficile pour trois générations d'hommes de venir et de faire cette même conversation, ce qui montre qu'il faut nous aider à parler, parce que beaucoup de fois on ne parle pas, les hommes, on est habitués ou peut-être formés à regarder.
Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur.